VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 2 novembre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Lancement hier des premières opérations conjointes de la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel.
Ici à Washington, le Congrès commence à s'inquiéter de la présence militaire américaine en Afrique.
Des étudiants nigériens ont déposé une plainte contre X après la mort d'un de leurs camarades en avril dernier.
À New York, les procureurs fédéraux ont inculpé hier l'immigré ouzbek accusé d'avoir fauché avec un véhicule bélier mardi des cyclistes et piétons.
Plusieurs pays musulmans veulent que l'ONU dénonce les violations des droits fondamentaux de la minorité musulmane des Rohingyas en Birmanie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Les premières opérations conjointes de la nouvelle force anti-djihadiste G5 Sahel ont été lancées hier aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La force est soutenue sur le terrain par la France. Des détails avec Arzuma Compaoré.
Le lieutenant-colonel français Marc-Antoine a annoncé à partir d'une base avancée française dans la région aride d'Intilit, dans le centre du Mali, le déploiement des Maliens, des Nigériens et des Burkinabés de la force G5 Sahel. Cette première opération baptisée Harbi est une démonstration de force et vise à entraver la liberté de mouvement de plusieurs groupes armés sévissant dans la région. La force conjointe doit atteindre d'ici mars 2018 sa pleine capacité de 5000 hommes répartis en 7 bataillons, 2 pour le Mali et le Niger et 1 pour le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Les soldats ne se mélangeront pas, à part quelques officiers de liaison. La force G5 Sahel se veut complémentaire de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA avec 12 000 hommes, et de Barkhane. Le budget de fonctionnement de la force a été estimé à 423 millions d'euros, mais une grande partie des fonds manque encore à l'appel. Les 5 pays créateurs ont promis chacun 10 millions d'euros, l'Union européenne 50 millions et la France 8 millions, soit un total de 108 millions d'euros. Les États-Unis se sont engagés lundi à apporter jusqu'à 60 millions de dollars, soit 51,5 millions d'euros de contribution.
Ici à Washington, les élus du Congrès commencent à s'inquiéter de la présence militaire américaine en Afrique, un continent qu'ils connaissent peu et où ils craignent que les États-Unis mènent une guerre secrète et perpétuelle contre un ennemi en mutation permanente. La récente embuscade meurtrière au Niger, qui a coûté la vie à 4 militaires des forces spéciales et au moins 4 soldats nigériens, a mis en lumière l'ampleur de la présence militaire des États-Unis en Afrique, 6 000 hommes déployés dans 53 pays.
Des étudiants nigériens ont déposé hier une plainte contre X après la mort d'un de leurs camarades, Mala Bagale, lors d'une manifestation réprimée par les forces de l'ordre en avril. C'est ce qu'a annoncé l'un de leurs responsables. Le rapport d'une commission d'enquête indépendante avait conclu à la mi-août que Mala Bagale avait été victime du tir d'un projectile d'un élément non identifié de la gendarmerie déployé près du campus de Niamey. Toutefois, le rapport relève que ces gendarmes affirment n'avoir ni tiré ni entendu une déflagration dans l'instant ayant précédé la découverte du corps de l'étudiant devant le portail du campus.
En République démocratique du Congo, 9 militants anti-Kabila arrêtés mardi en marge d'une marche à Beni dans l'Est, ont été libérés selon un responsable de la police de la ville. La marche avait été organisée par le mouvement des jeunes indignés Lucha contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis fin 2016.
Le président soudanais Omar al-Béchir affirme que son pays est disposé à œuvrer pour calmer les tensions avec le Soudan du Sud. Le point avec Solange Niamoulissa.
Le président al-Béchir s'exprimait à l'occasion de la visite à Khartoum de son homologue du Soudan du Sud, Salva Kiir, arrivé dans la journée à Khartoum. Il a assuré que le Soudan est disposé à régler toutes les questions en suspens et à accélérer les mécanismes politiques et de sécurité pour que les relations bilatérales s'améliorent. Le leader soudanais a ajouté que son pays assiste le peuple du Soudan du Sud et a laissé ouvertes ses frontières pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Monsieur Kiir effectue sa 3e visite au Soudan depuis la sécession de son pays en 2011. Le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makwei, a expliqué que cette visite a pour but de normaliser les relations tendues entre leurs deux pays. Son homologue soudanais Ahmed Bilal a estimé que ce déplacement a pour objectif d'instaurer la sécurité et la stabilité entre les deux pays voisins. Plusieurs différends frontaliers et économiques opposent Khartoum et Djouba, qui s'accusent mutuellement de soutenir des rebelles qui leur sont hostiles.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À New York, les procureurs fédéraux ont inculpé hier l'immigré ouzbek accusé d'avoir fauché avec un véhicule bélier mardi des cyclistes et des piétons, tuant 8 personnes et blessant de nombreuses autres. Ces procureurs ont retenu contre Saifullo Saipov, 29 ans, deux chefs d'accusation, soutien matériel à un groupe terroriste et destruction de véhicules. Le suspect avait percuté un bus de ramassage scolaire et brandissait ce qui ressemblait à des armes à feu après être descendu de son véhicule quand il a été atteint à l'estomac par un policier, puis appréhendé et transporté à l'hôpital. Saipov a planifié pendant des semaines son attentat, selon les enquêteurs, qui lit son acte à des appels et exhortations du groupe État islamique sur les réseaux sociaux. Il a assumé son allégeance à ce groupe, s'est déclaré satisfait de son acte et a même demandé à déployer le drapeau noir des djihadistes dans sa chambre d'hôpital, selon les enquêteurs.
Pendant ce temps, les responsables de la ville, tout comme ses habitants, ont juré que l'attaque n'intimiderait pas les New-Yorkais, John Lyndon.
Les unités médico-légales de la police étaient toujours sur les lieux hier, examinant la camionnette qui avait frappé des cyclistes, des piétons et finalement un autobus scolaire. En tout, 8 personnes ont été tuées et 20 autres blessées, dont certaines grièvement. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que l'attaque était la définition du terrorisme, une tentative d'emporter les maisons et l'esprit des gens, mais qui avait échoué. Pendant ce temps à Washington, le président américain Donald Trump a blâmé l'attaque sur ce qu'il appelle un programme de loterie de l'immigration américaine laxiste et a promis d'y mettre fin. Ce que nous demandons, c'est l'immigration fondée sur le mérite. Nous voulons des gens qui vont aider notre pays. Nous voulons des gens qui vont protéger notre pays. Nous ne voulons pas de loterie où les mauvaises personnes sont admises. Les autorités ont identifié l'agresseur présumé Saifullo Saipov, un immigrant ouzbek âgé de 29 ans qui est venu aux États-Unis en 2010. Il aurait suivi les conseils donnés par les djihadistes de l'État islamique sur les réseaux sociaux sur la façon de mener une attaque au véhicule bélier contre les piétons.
D'autre part, l'AFP rapporte que 2 hommes ont été tués et une femme blessée hier par des tirs d'armes à feu dans un supermarché de la ville de Thornton, dans l'État du Colorado, dans l'ouest des États-Unis.
Le président Donald Trump s'apprête à effectuer une tournée de 12 jours dans 5 nations d'Asie, alors que les tensions restent vives dans la péninsule coréenne. Et puis, selon des sondages d'opinion, une majorité d'Américains considèrent la Corée du Nord comme la menace la plus immédiate contre les États-Unis. La Corée du Sud, rivale du Nord, sera les 7 et 8 novembre la seconde étape de la tournée de M. Trump. Dans ses entretiens avec son homologue Moon Jae-in et d'autres leaders étrangers, M. Trump devrait mettre l'accent sur les moyens de faire face au programme nucléaire et de missiles balistiques de Pyongyang.
Plusieurs pays musulmans conduits par l'Arabie Saoudite veulent que l'ONU dénonce les violations des droits de l'homme en Birmanie à l'encontre de la minorité musulmane des Rohingyas, selon un projet de résolution obtenu hier par l'AFP. Plus de 600 000 Rohingyas ont fui l'ouest de la Birmanie depuis le déclenchement fin août d'opérations militaires birmanes contre des rebelles Rohingyas. Déposé auprès de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies, le projet de résolution non contraignant souligne l'inquiétude très élevée des États membres face à la violence et au recours disproportionné à la force des autorités birmanes contre les Rohingyas.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Blanche Samou.
Les participants au Global Business Forum organisé à Dubaï ont plaidé en faveur d'une accélération des investissements en Afrique. Ces experts ont estimé que les 54 pays africains, qui réunissent un cinquième de la population mondiale, ont besoin de dizaines de milliards de dollars d'investissements, notamment dans les infrastructures et l'énergie. Quant au volume des échanges commerciaux entre les Émirats arabes unis et l'Afrique, il s'élève à 35 milliards de dollars et connaît chaque année une augmentation à deux chiffres. La Côte d'Ivoire bénéficie d'un don de plus de 300 milliards de francs CFA du gouvernement américain. Un accord sera signé entre les gouvernements des deux pays avec un programme compact qui permettra de stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté grâce à des investissements dans le secteur de l'éducation, de la formation technique et professionnelle et dans le secteur des transports. Un autre objectif important de ce projet est de renforcer la scolarisation des filles au secondaire afin d'atténuer les disparités entre les sexes. L'Union européenne a financé à hauteur de 40 milliards de francs CFA les efforts de protection de l'environnement dans le cadre du sixième volet de l'opération écosystème des forêts d'Afrique centrale. Pour le Cameroun, 10 milliards de francs CFA de cette enveloppe seront dédiés aux activités de conservation des écosystèmes du pays. Le ministère camerounais des forêts et de la faune a précisé que l'Union européenne appuiera la lutte contre le braconnage et le commerce illicite d'ivoire sur toute l'étendue du territoire.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Oh oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Alors, qui sera le meilleur joueur africain 2017 ?
Aubameyang apparaît comme le grand favori pour ce titre de joueur africain de l'année. Le Gabonais qui a réussi la performance de terminer meilleur buteur du championnat d'Allemagne à l'issue de la saison 2016-2017 avec 31 buts. Sadio Mané, le Sénégalais de Liverpool et Vincent Aboubakar, le Camerounais de Porto sont en embuscade pour ce titre. À noter que le vainqueur succédera à Riyad Mahrez, l'Algérien vainqueur du trophée 2016 mais qui n'est pas sélectionné cette année.
Suite et fin de la quatrième journée de la Ligue des Champions.
Dans le groupe E, après la gifle historique infligée à Maribor par Liverpool, les Reds à Anfield ont battu les Slovènes 3-0. Séville prend la deuxième place grâce à sa victoire sur le CSKA Moscou de 2-1. Dans le groupe F, au terme d'une nouvelle confrontation de qualité, Manchester City s'est imposé à Naples 4-2. Les Citizens se qualifient pour les huitièmes de finale. La victoire du Shakhtar Donetsk face au Feyenoord 3-1 éloigne un peu plus les Napolitains de la qualification. Dans le groupe G, Monaco a concédé le nul sur la pelouse de Beşiktaş, 1-0. La qualification pour les huitièmes de finale s'éloigne pour les champions de France. Quant à Leipzig, défaite 3-1 face au FC Porto. Enfin, dans le groupe H, le choc en Angleterre entre les deux leaders de la poule, Tottenham et le Real Madrid. Eh bien, ce sont les Anglais qui l'ont emporté 3-1. Ils prennent seuls la tête du groupe H et assurent leur présence en huitième de finale. Dortmund qui n'a pas réussi à battre Nicosie à domicile, match nul 1-0.
Important dispositif de sécurité pour la finale, le retour de la Ligue africaine des champions.
Et oui, 10 000 policiers marocains mobilisés et un cordon sécuritaire pour protéger les joueurs et supporters du club égyptien d'Al Ahly. Les autorités marocaines vont mobiliser de gros moyens pour le match retour de la Ligue africaine des champions. 50 000 supporters sont attendus samedi au stade Mohamed VI. Il s'agit d'éviter tout incident entre les supporters des deux clubs.
Tour du Faso en cyclisme.
La sixième étape d'Anogawa, le Belge Jari Vastraté est le premier à franchir la ligne d'arrivée. Il devance le Malien Yaya Diallo. Le meilleur Burkinabé du jour est arrivé quatrième. Il s'agit d'Abdoulaye Rwamba. Benjamin Stoder, l'Allemand, conserve le maillot jaune de leader. À suivre ce jeudi, la septième étape entre Banfora et Bobo Dioulasso. Allez Idrissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Milwaukee Bucks et Charlotte Hornets, 121-126. Indiana Pacers et Cleveland Cavaliers, 124-107. Atlanta Hawks et Philadelphia Sixers, 109-119. Phoenix Suns et Washington Wizards, 122-116. Sacramento Kings et Boston Celtics, 86-113. Chicago Bulls et Miami Heat, 91-97. Houston Rockets et New York Knicks, 119-97. Orlando Magic et Memphis Grizzlies, 101-99. Minnesota Timberwolves et New Orleans Pelicans, 104-98. Toronto Raptors et Denver Nuggets, 111-129. Portland Trail Blazers et Utah Jazz, 103-112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président américain Donald Trump a annoncé hier vouloir mettre fin à la loterie d'attribution des cartes vertes qui donne le droit de s'installer aux États-Unis, l'auteur de l'attentat meurtrier de New York ayant bénéficié de ce système. Anastasie Toudiech a recueilli la réaction à New York de Bakary Tandia, militant pour les droits des immigrants au sein de l'ONG African Services.
La majorité des Africains qui viennent ici avec le visa d'immigrant viennent à travers ce canal. Donc, le fait de le supprimer, ça va porter un préjudice sérieux aux Africains. Bon, c'est un programme qui marche très bien pour les Africains et qui ne porte préjudice à aucun autre groupe. Donc, pour nous, il n'y a pas de raison de le supprimer.
Vous êtes en train de dire que les Africains seraient victimes, en fait, de cette décision du président Trump?
Les Africains seront les principales victimes. Et même bien avant lui, à toutes les propositions de loi du Congrès par rapport à la réforme de l'immigration, il y a toujours cette volonté au niveau du Congrès d'éliminer systématiquement ce programme.
Depuis combien de temps ce programme existe-t-il d'ailleurs?
Ce programme existe depuis 1995. Donc chaque année, et d'ailleurs le programme est actuellement en cours, le programme est ouvert. Tous les candidats sont invités à soumettre leurs demandes. Bon, en général, c'est pendant une période d'un mois et après, la sélection va se faire. C'est une sélection au hasard. Ceux qui auront la chance d'être élus vont être notifiés et s'ils remplissent les conditions requises, on va leur demander de compléter les formalités nécessaires pour venir ici aux États-Unis en tant qu'immigrant.
Le président Trump s'est dit prêt à œuvrer immédiatement, je cite, œuvrer immédiatement avec le Congrès pour faire appliquer cette décision d'arrêter la loterie des visas Green Card. Concrètement, en combien de temps peut-elle être effective, cette décision?
Quelquefois, il prend des décisions, il revient sur ces décisions et je sais que nous, en tant qu'immigrants d'une manière générale, nous n'allons pas rester bras croisés. On va essayer de voir les mécanismes par lesquels on peut faire une campagne pour protéger ce programme qui fonctionne très bien pour nous.
C'était Bakary Tandia de l'ONG African Services à New York.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies organise cette semaine à New York le débat public annuel sur les femmes, la paix et la sécurité pour marquer le 17e anniversaire de la résolution 1325. Il s'agit d'une résolution décisive de l'ONU qui appelle à la participation des femmes dans la consolidation de la paix. Jacques Aristide s'est entretenu avec l'une des déléguées, la Congolaise Justine Masika Bihamba, fondatrice de l'ONG Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles.
Les droits de la femme, c'est tout un problème. En période de paix, c'est les coutumes et traditions qui considèrent la femme comme inférieure. Et en période de guerre, son corps est utilisé comme arme de guerre et elle est violentée. Donc le droit de la femme, ça reste un défi majeur, surtout dans les pays en conflit et les pays post-conflit. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas autant d'attention sur le problème de la RDC. Il est vrai qu'on se bat pour que le problème de la RDC, surtout la situation de la femme, soit d'actualité. Mais le problème est que c'est très peu médiatisé. Surtout lorsqu'on est en dehors de la RDC, personne ne connaît ce que c'est vice en RDC. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de mourir à Beni et ça fait maintenant 2 ans qu'il y a des milliers de femmes qui sont violées, qu'il y a des milliers de personnes qui sont tuées au Kasaï même. Mais là, il n'y a personne qui parle. C'est difficile. Et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, tous les médias sont au Congo.
C'est un combat qui est mené évidemment sur plusieurs fronts, mais à vous entendre, à vous écouter, on a l'impression que ce combat n'est pas en train vraiment de porter ses fruits,
que ce soit
en RDC Congo ou ailleurs en Afrique.
Non, je dirais que ça porte des fruits, mais ce n'est pas les fruits que nous, on attendait. C'est un processus, oui, mais nous voulons vraiment qu'on puisse agir, que la situation puisse changer. Mais c'est difficile. Nous ne savons pas comment faire, mais on ne peut pas dire que les combats ne portent pas des fruits. Oui, ça porte des fruits, puisqu'aujourd'hui, il y a diminution des cas de viol. Avant, on recevait au moins c'est 40 à 50 femmes la semaine. Mais aujourd'hui, on a diminué, on est à 10, à 6. Et cela, c'est grâce au travail des médias, au travail de nous activistes de la société civile, mais surtout au travail qu'a fait l'envoyée spéciale du secrétaire général, puisqu'elle a fait un travail avec la police nationale. Aujourd'hui, nous avons une stratégie pour la police nationale de lutte contre les violences sexuelles. Nous avons une stratégie nationale pour l'armée, mais on a même une commission au sein du Sénat qui lutte contre les violences sexuelles. Là, c'est un travail de fond et ça fait que les personnes en armes, surtout l'armée et la police, et ils ont compris. Mais les grands défis restent les groupes armés. Vous savez qu'en RDC, surtout dans ma province, il y a une multitude, plus de 30 groupes armés actifs, étrangers et nationaux. Donc là, ça reste un défi.
La situation politique en ce moment en RD Congo n'est pas en train d'aider cette situation non plus.
La situation politique, là, c'est un grand problème. Je crois que nous devons vraiment arriver à respecter nos textes, nous, en tant que Congolais. Puisque ce n'est pas que chaque jour on aura à forcer un président dans l'histoire de la RDC. Nous avons besoin d'une passation de pouvoir civilisé. Puisque là, ce n'est pas seulement parler de la situation politique, mais la situation sociale aussi est devenue catastrophique. Et pourquoi ces jeunes gens ont été tués? Puisqu'ils demandent seulement leur droit, celui de l'alternance. Je crois que nos autorités doivent réfléchir encore une fois. Et quelles autorités? Tu n'es pas une autorité si tu ne sais pas protéger ta population, moi je pense.
La militante congolaise Justine Masika Bihamba, qui lutte contre le viol en RDC, était interrogée dans le studio de la Voix de l'Amérique à New York.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Guinée, les journalistes se disent victimes d'agressions. Ils accusent en particulier la gendarmerie de Matam de les avoir malmenés récemment quand ils étaient venus soutenir un confrère accusé d'offense au chef de l'État et de diffusion de fausses nouvelles ou rumeurs. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara fait le point.
Au total, 19 journalistes et caméramen ont été agressés, blessés par les gendarmes de l'escadron mobile numéro 3 de Matam, selon l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. C'est à l'hôpital qu'Aïssa Toubari a reçu la visite de ses patrons.
Je suis vraiment réconfortée aujourd'hui de voir mes collègues, mes confrères, les membres de l'URTLGI auprès de nous. C'est un combat pour tous. La gendarmerie a une fois de plus prouvé que ce n'est que par la violence qu'elle peut s'exprimer.
On voudrait te rassurer que ce crime sera puni avec toute la rigueur de la loi. Et vous pouvez compter sur nous que ce sont encore une fois des plaintes qui ne dormiront pas dans des tiroirs.
Sanouker Falassissi qui rassure la journaliste blessée à l'épaule et au genou est le président de l'Union. Son bureau a demandé au haut commandement de la gendarmerie nationale de rembourser les caméras, les appareils photographiques et les enregistreurs détruits par les gendarmes.
Lorsque nous verrons que les lignes ne bougeront pas, nous allons entamer des journées, pas une journée, mais je dis bien des journées sans presse dans ce pays.
En plus des violences physiques, les journalistes se sont vus retirer leur matériel de reportage. Impuissants, ils ont vu une voiture les écraser sur ordre des gendarmes, témoignent certains blessés.
Quand on est allé, on était là, toujours à l'attente pour voir comment ils allaient au moins libérer notre directeur. C'est dans ces conditions au moins qu'on a vu des gens sortir. C'est quand je suis tombée, c'est là qu'ils sont venus, en me tabassant, qu'ils m'ont donné des coups de poing.
À ma grande surprise, je me suis vu vraiment encerclé par des hommes en uniforme et en disant que de déposer la caméra, je dis non, je ne peux pas déposer, il ne fallait même pas dire ça. Et après, ils réunissent tous les matériels, autorisant un chauffeur de passer dessus.
Une rumeur annonçant la mort du président Alpha Condé s'est répandue lundi dans la capitale. Gangan FM, une radio privée a été accusée d'être à l'origine de cette fausse information. Son patron est interpellé et retenu en garde à vue avant de bénéficier d'une liberté provisoire 24 heures après. Aboubacar Camara se dit très surpris.
Au vu de ce qui s'est passé et puis à l'écoute même de l'élément qui est incriminé et même avec les commissaires de la HAC, on se rend compte qu'il y a une machination. Je ne sais pas pourquoi il y a toute cette transformation de la chose malheureusement contre nous. On n'a nullement parlé de ce qu'ils prétendent. C'était un truc qui était lié à un message funèbre pour un homme qui a longtemps, pendant 5 ans, servi loyalement mon média, auquel j'ai dédié 2 journées pour saluer, accompagner sa mémoire.
Dans une déclaration publiée mercredi, l'association des journalistes photo-reporters de Guinée parle d'arrestation arbitraire et condamne ce qu'elle appelle la barbarie à l'égard des hommes de médias. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Nigeria, près de 50 ans après la guerre civile sanglante au Biafra, le gouvernement accepte de compenser les victimes à hauteur de 139 millions de dollars. Un premier pas, certes, mais insuffisant pour réconcilier le pays, disent certains analystes. Abdourahmane Dia.
C'est en 2012 qu'un groupe de 500 victimes ou familles de victimes avait porté plainte contre le gouvernement. Mais le dossier semblait bloqué au niveau de la justice. Oude Jude Ilo est chef du bureau de l'OSIWA, l'Open Society Initiative, au Nigeria.
Nous devons garder à l'esprit que ceci est le résultat d'une action en justice et après plusieurs reports, le gouvernement a finalement décidé de trouver un arrangement. Et sans oublier toute la colère et la frustration dans le pays, surtout dans le sud-est du Nigeria.
Cette décision de compenser quelques 685 personnes identifiées comme étant des victimes de la guerre du Biafra, intervient alors qu'un nouveau mouvement apparaît dans cette région du sud-est pour demander l'organisation d'un référendum pour l'indépendance du Biafra, ou des Jude Ilo.
Je pense que ce geste du gouvernement est une réponse directe à ces sentiments. Ils essayent de faire baisser les tensions et donner l'impression qu'ils veulent réellement résoudre les problèmes liés à l'injustice et démontrer à tous les Nigériens qu'ils font partie du pays.
Pour lui, cette décision du gouvernement de compenser ses victimes est un geste important, mais il faudra aller au-delà pour réconcilier ce pays miné par la division.
Il est évident que le nombre de personnes qui vont bénéficier de ces compensations est loin de représenter le nombre total de victimes de la guerre civile. Loin de là, mais c'est une étape dans la bonne direction. Cela doit être le début d'un programme plus systématique et plus global pour mieux faire face au sentiment de marginalisation ou d'exclusion ressenti pas seulement au sud-est, mais à travers tout le Nigeria.
En plus des sommes qui seront versées aux victimes, le gouvernement s'engage aussi à investir 105 millions de dollars pour nettoyer la région de ses mines antipersonnelles et de ses bombes et pour construire des écoles, des tribunaux, des églises et des mosquées. Tout cela dans l'espoir d'apaiser les velléités indépendantistes qui ont revu le jour dans le sud-est nigérian depuis l'élection de Muhammadu Buhari en 2015.
Ekia Badou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, analyse sur le dossier G5 Sahel. Lundi, Washington a annoncé l'octroi d'une aide bilatérale de 60 millions de dollars à cette force antiterroriste africaine. Mais les États-Unis refusent toujours d'accéder à la demande du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des 5 pays du Sahel, de la France et d'une majorité du Conseil de sécurité d'autoriser un soutien de l'ONU. Y a-t-il une inflexion dans la position américaine ? Comment les États africains peuvent-ils venir à bout de la menace terroriste ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous dans Washington Forum ce jeudi à 19h en temps universel.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nelson Lopes. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.